Le 18-20, comme chaque soir, commence avec le premier journal de la soirée. Ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 24 mai avec le journal de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence avec un conflit qui s'enlise.
La guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis 3 mois. La Russie se dit déterminée à atteindre tous ses objectifs, notamment la prise du Donbass où la ville de Severodonetsk est bombardée sans relâche depuis des jours. Témoignage ce soir d'une habitante qui a pu fuir l'enfer de cette nouvelle ville martyre. Le pire est à venir sur les prix de l'alimentation en France. Inflation oblige, conclusion d'une étude parue aujourd'hui, 224 euros de plus par an et par personne à la fin de cette année. Le détail à suivre avec le service économie. À suivre aussi, les personnels du CHU de Bordeaux en grève aujourd'hui, au bord de l'épuisement. Nicolas Hulot entendu par la brigade de protection des mineurs et un moment d'émotion rare pour terminer à Roland-Garros, la fin de la carrière de Joe Wilfried Tsonga, le français en larmes pour son dernier match, on l'entendra.
À 18h15, un jour dans le monde avec cette question, aux 3 mois de guerre en Ukraine, l'humour est-il une arme de résistance massive? C'est Charlie qui pose cette question dans son édition à paraître demain et qui accueille des dessinateurs ukrainiens. Il continue à dessiner, à faire rire, on verra d'ailleurs comment, parce que les choses ont changé aussi dans leur humour. À 19h20, c'est le téléphone sonne, on parle transport ce soir. Nous sommes dans les chantiers qui attendent ce deuxième quinquennat et dans ce grand ministère de l'écologie, puisque ce sont les transports qui contribuent le plus aux émissions nocives, puisqu'il faut accélérer, faut-il interdire les véhicules à essence plus tôt? Comment baisser drastiquement le prix des voitures électriques? Mieux favoriser transport en commun, autopartage, le chantier des transports dans le téléphone sonne avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a donc eu le martyr de Mariupol, il y aura aussi celui de Severodonetsk.
Après 3 mois de conflit, c'est désormais cette ville qui est dans le viseur des chars russes, une ville de plus de 100 000 habitants, en plein cœur du Donbass. Priorité stratégique pour le Kremlin, Severodonetsk bombardée nuit et jour, presque totalement encerclée, et des habitants qui se terrent comme à Mariupol pour éviter les combats. Quelques-uns d'entre eux ont réussi toutefois à sortir de la ville, comme cette femme qu'a pu rencontrer notre envoyé spécial Valérie Krova. Elle décrit un véritable cauchemar.
Olga vient d'arriver à Kramatorsk avec 2 sacs en plastique remplis de quelques habits. C'est tout ce qu'elle a pu emporter de sa maison qui a été bombardée par les forces russes. Sa vie était devenue un enfer. Il n'y avait plus d'électricité, ni gaz, ni eau. Il n'y avait plus rien. Parfois, on nous apportait de l'aide humanitaire. Il y a 2 mois, ma maison a été détruite. J'ai tout abandonné. Que pouvais-je faire? J'ai maigri de 15 kilos. J'ai eu une bronchite. Tout est brisé, écrasé, brûlé. Car les forces russes détruisent méthodiquement Severodonetsk. Pour celles et ceux qui sont restés, pas d'autre choix que de s'adapter pour survivre. Nous chauffions de l'eau pour la soupe. Nous pouvions cuisiner, allumer du feu. Vous ne pouvez pas imaginer, il y avait beaucoup de gens dans les caves. Mais nous avons survécu. Olga fêtera demain ses 69 ans. Mon cadeau d'anniversaire, c'est d'être sorti de Severodonetsk.
Le reportage de Valérie Krova et de Laurent Maketti. La Russie affiche de son côté sa détermination à poursuivre la guerre autant de temps qu'il le faudra et peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev. La déclaration aujourd'hui du ministre de la Défense en personne, Sergueï Shoigu. La Russie qui n'hésite plus à défier le monde entier aujourd'hui. Exercice militaire conjoint avec son allié chinois. Les deux pays ont fait voler des bombardiers stratégiques pendant 13 heures au-dessus de la mer de Chine et surtout du Japon. Une provocation pour le Japon. Le Japon était en déplacement aujourd'hui même, le Joe Biden, le président américain, pour une rencontre avec le Quad, cette alliance entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. La Chine au cœur d'une enquête inédite publiée aujourd'hui par un collectif de médias internationaux dont nos confrères du Monde, enquête sur la situation des Ouïghours. Les journalistes ont pu se procurer 100 000 fichiers informatiques allant jusqu'en 2018, piratés dans les ordinateurs de la police de Xinjiang, grâce auxquels on découvre l'ampleur des camps d'internement de cette minorité musulmane. 12% des adultes ouïghours étaient internés en 2018, plus que dans les goulags de Staline. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Et ce sont toutes les générations qui sont touchées.
Oui, il suffit de regarder les photos de détenus qui ont été récupérées grâce à cette fuite de données, des femmes, des hommes âgés, mineurs, le plus jeune à 15 ans. C'est le chercheur allemand Adrian Zenz qui a reçu et traité avec 14 médias internationaux cette masse de documents.
Ce que nous voyons dans la région, c'est une sorte de plan de Pékin visant à contrôler, à briser le dos de groupes ethniques entiers en internant énormément de personnes, des personnes clés, la vieille génération. Nous voyons combien de personnes âgées se trouvent dans les camps, nous le voyons dans les données. Cela montre que toute une génération qui transmettait des connaissances culturelles et spirituelles est éliminée et que les enfants sont placés dans des internats. C'est un programme d'assimilation qui vise tout un groupe ethnique.
Les raisons des détentions ne sont pas toujours précisées, mais quelques détails apparaissent. Vol dans des maisons de population Han, ethnie majoritaire en Chine, préparation d'actes terroristes, pensées jugées extrêmes, en sachant que pour ces minorités, laisser pousser sa barbe, porter le voile peuvent être des éléments à charge qui les conduisent directement dans ces camps de rééducation où les Ouïghours apprennent, selon les autorités, le mandarin et suivent un programme de déradicalisation encadré par des gardiens armés. Du lavage de cerveau, préfèrent dire les experts du sujet.
Julie Pietri de la rédaction internationale de Radio France.
Le budget alimentaire des Français pourrait bondir de plus de 200 euros cette année.
Estimation du numéro 1 de l'assurance Crédit Alliance Trade dans une étude publiée aujourd'hui. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Faire ses courses va nous coûter donc de plus en plus cher cette année.
Oui, on connaît le contexte mondial. Depuis plusieurs années, les aléas météo ont nui au rendement des cultures et fait baisser les stocks. Depuis 3 mois, la guerre en Ukraine bouleverse l'approvisionnement dans toute l'Europe. Et puis les prix des engrais, des carburants et de l'électricité se sont envolés. Résultat, les industriels de l'agroalimentaire ont augmenté leurs prix en moyenne de 14% avec quelques hausses spectaculaires. 28% pour la farine, 19% pour les pâtes. Et pour l'heure, les distributeurs, eux, n'ont augmenté leurs prix en moyenne que de 6%. Ce qui veut dire qu'ils ont en partie absorbé l'augmentation des coûts de production. Mais cette situation n'est pas tenable à long terme, estime Allianz Trade, qui table donc sur une augmentation des prix de plus de 9% pour cette année, avec des stratégies de plus en plus fines grâce à la technologie. Chaque enseigne, chaque magasin étant capable de décider ce qui doit augmenter un peu et ce qui doit augmenter beaucoup. Au final, donc, un surcoût en moyenne en Europe de 243 euros par an et par personne. Les Français s'en sortent un peu mieux avec une hausse limitée, entre guillemets, à 224 euros, quand les consommateurs allemands devront dépenser 254 euros supplémentaires.
Agnès Soubiran, spécialiste consommation, étude également à retrouver sur franceinter.fr. Les hôpitaux français également, la limite de la rupture. Le CHU de Bordeaux était en grève aujourd'hui, personnel en burn-out, des patients accueillis par des bénévoles aux urgences. Et depuis une semaine, un filtrage a aussi été mis en place la nuit dans le CHU. Impossible pour le public d'accéder directement aux urgences. Il faut composer le 15 ou sonner sur place un interphone. Les médecins régulateurs du SAMU n'admettent plus que les cas les plus graves. Une situation dénoncée aujourd'hui par une centaine de soignants. Une manifestation suivie par Solène de l'Arqué de France Bleu Gironde.
Depuis la mise en place du filtrage la nuit aux urgences du CHU Pellegrin, le nombre de passages a été divisé par 2, de 60 patients à une trentaine la nuit. Julien Duloup est aide-soignant, il constate un impact net et à double tranchant.
Ça nous permet de souffler un petit peu, nous, on va pas se mentir, de retrouver un service pas plein dès le matin. Et ça, pour passer une journée plus tranquille, pour accueillir la population, c'est très bien. Sauf que, exemple, hier matin à 8h, 30 patients d'un coup qui sont arrivés. Et du coup, il va y avoir des retards de prise en charge.
Sans compter le report de travail sur le SAMU, aucun patient ne peut maintenant accéder aux urgences la nuit sans avoir la validation des médecins régulateurs dont Céline Bourdier fait partie.
On est déjà épuisé moralement et c'est une surcharge pour nous. On sait de sources sûres qu'en fin de compte, d'autres hôpitaux vont prendre le même chemin que Pellegrin et donc c'est forcément de la charge de travail pour le 15 en plus, c'est des appels en plus et on va rentrer dans l'été où il n'y a pas de personnel pour les hôpitaux, mais le personnel du 15 part en vacances. Et il manque déjà du personnel.
30% des agents régulateurs du SAMU de la Gironde sont aujourd'hui en arrêt maladie et il manque la moitié des médecins urgentistes à l'hôpital Pellegrin pour faire fonctionner le service normalement.
Reportage de Solène de l'Arqué de France Bleu Gironde. 9 syndicats CGT en tête ont appelé une journée de mobilisation le 7 juin prochain pour l'hôpital pour réclamer des hausses de salaire et des effectifs à la veille des législatives. Face au cas de variole du singe, désormais 3 cas confirmés en France, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les adultes, y compris les professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un malade.
Nicolas Hulot, entendu pour la première fois par la Brigade de protection des mineurs.
Oui, l'ancien ministre accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
La police judiciaire parisienne a entendu l'ex-animateur de télé dans le dossier d'une plaignante mineure à l'époque des faits.
Oui, Nicolas Hulot, entendu depuis maintenant près de 4 heures sous le régime de l'audition libre. L'enquête préliminaire avait été ouverte à la suite de la diffusion d'un reportage reportage d'Envoyé spécial sur France 2 en novembre l'année dernière. 6 femmes accusaient l'ex-ministre de violences sexuelles sur une période qui va de 1989 à 2001. Selon une source proche de l'enquête, une seule plainte a été finalement déposée, celle effectivement de cette femme mineure à l'époque des faits qui accuse l'ex-animateur d'avoir tenté une fellation forcée. On sait que 2 autres femmes, l'ancienne animatrice Maureen Dor ainsi qu'une ex-employée de TF1, avaient également transmis des témoignages écrits à l'équipe d'Envoyé spécial pour dénoncer des agressions sexuelles. Dans un communiqué, la procureure de Paris avait précisé que les investigations doivent déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise. Nicolas Hulot avait déjà fait l'objet d'une plainte pour viol classée sans suite pour cause de prescription, justement. La plaignante n'était autre, on le sait, que la petite fille de François Mitterrand, Pascal Mitterrand. Nicolas Hulot a rejeté systématiquement les différentes accusations rendues publiques ces dernières années.
Emmanuel Leclerc, l'observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, appelle un rassemblement en ce moment à Paris pour dénoncer un gouvernement de la honte après la nomination de Damien Abad accusé de viol et de violences sexuelles par 2 femmes. Dans l'actualité judiciaire encore, la demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi, l'un des membres du commando Irignac, elle a été rejetée en appel, et puis ses perquisitions au siège du cabinet de conseil McKinsey, soupçonné dans un rapport du Sénat de ne pas avoir payé son impôt sur les sociétés pendant 10 ans.
Le pass culture souffle sa première bougie.
Ce dispositif rassemble 1 900 000 jeunes bénéficiaires qui, entre leurs 15 et 18 ans, reçoivent un crédit individuel de 380 €, 80 euros entre 15 et 17 ans, puis 300 euros à 18 ans, une enveloppe à dépenser dans des activités ou des biens culturels. Alors un an après sa généralisation, Emmanuel Macron souhaite l'élargir aux élèves de 6e et les acteurs culturels. Sébastien Sabiron dresse un premier bilan plutôt positif.
Depuis le début, c'est surtout le livre que plébiscitent les jeunes. 56% des achats effectués avec le pass culture, un tiers de mangas, de la littérature jeunesse et du développement personnel. Libraire à Saint-Etienne, Alexandra Charouin-Spangenberg a vu évoluer le profil de sa jeune clientèle.
Ce sont des jeunes qu'on connaissait parce qu'ils venaient pour l'école, mais là c'était la première fois qu'ils venaient dans une notion d'achat plaisir. Et ça, pour certaines catégories sociales plutôt défavorisées, c'est une nouveauté. On a vu arriver des jeunes qui ne seraient jamais rentrés dans une librairie parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Malgré la crise sanitaire, 2 millions de séances de cinéma ont été réservées grâce au pass culture. Priscille Descou dirige les cinémas de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne.
On est content de les voir retrouver cette pratique de la salle cinématographique, du grand écran. C'est peut-être eux à un moment qui vont devenir le levier pour faire revenir d'autres générations de spectateurs dans les cinémas.
Plus surprenant, les jeunes achètent aussi des instruments de musique grâce au pass culture, son président Sébastien Cavalier.
Depuis le début de l'année 2022, où la situation Covid s'est améliorée, la musique live se développe beaucoup plus. Et je pense que les instruments de musique, en fait, c'est un intérêt profond pour la musique. Les jeunes, ils adorent ça. Aussi bien aller dans un concert ou dans un festival que pratiquer de la musique.
En attendant son élargissement aux élèves de 6e, 5e, souhaité par Emmanuel Macron, l'objectif est d'atteindre 3 millions d'utilisateurs du pass culture d'ici la fin de l'année.
Sébastien Sabiron, et puis des larmes sur la terre ocre de Roland Garros pour finir. Pour le dernier match de sa carrière, Joe Wilfried Tsonga, 37 ans, s'est incliné dès le premier tour. C'est son épaule qu'il a finalement lâché face au 8e mondial Gaspard Ruud. Tsonga, entouré de tous ses proches, qui a eu ces mots pour ce dernier match.
Depuis mon plus jeune âge, j'ai laissé personne me faire croire que je n'arriverais à rien. J'ai dû faire preuve de résilience à chaque moment de ma carrière ces 20 dernières années. J'étais pas préparé à recevoir tout cet amour et toutes ces attentes, mais je me suis battu. J'ai appris à rester moi-même, sans faire de vagues inutiles. J'ai essayé d'agir, de faire du mieux possible. Je suis maintenant là devant vous, sans ma raquette, qui aura été ma meilleure amie pendant 30 ans. Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
L'émotion de Joe Wilfried Tsonga sans sa raquette devant tout le central de Roland-Garros debout. On lui rendra à nouveau hommage dans le journal de 19h.
Voilà, avec grand plaisir. Vous avez pleuré Sébastien, je le sais. Voilà, vous
êtes
un grand sensible,
c'est
mais
vrai.
Vous reviendrez tout à l'heure dans Un jour dans le monde et vous nous raconterez l'histoire de ce syndicaliste étudiant qui a échoué à plus de 200 examens, qui avait eu une carte d'étudiant depuis 33 ans.
C'est ça.
Toutes nos félicitations à lui.